Bonjour à tous. Que gagnerait-on à contrôler le langage et en quoi est-il à l'image du monde? Que peut le langage? Discussion aujourd'hui entre le philosophe belge Pascal Chabot, auteur de L'homme qui voulait acheter le langage, un drame philosophique qui paraît au PUF, et l'écrivain Laurent Nunez qui publie Il nous faudrait des mots nouveaux. Ils seront ensemble à partir de 12h55. Mais d'abord, cap vers l'ouest, far far west avec Jacques Audiard et ses frères Sisters qui débarquent en salle mercredi. Lion d'argent, meilleur réalisateur à la Mostra de Venise, le réalisateur du Prophète et de Dipan précédemment, et notre invité à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
C'est pas mal.
Adapté d'un roman de Patrick DeWitt, les frères Sisters s'assemblent mais ne se ressemblent pas. Ellie et Charlie, l'un plutôt débonnaire et protecteur, il est l'aîné des deux frères, l'autre plus nerveux et autoritaire, c'est Charlie, le cadet. Deux cow-boys sur grand écran, on est en Oregon ou en Californie, à la solde du Commodore. Ils tuent sur contrat jusqu'à ce que ce soit leur tête à eux qui soit mise à prix. C'est l'histoire d'un parcours initiatique, d'un nouveau départ. Bonjour Jacques Audiard.
Bonjour.
Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelle semaine aussi. Aussi pour nous, cette idée d'un nouveau départ, elle vous trotte parfois dans la tête, tout changer?
Vous parlez de mes films?
Non, de vous.
Non, moi non. J'ai l'impression d'être un peu à l'arrêt. Mais c'est vrai que c'est un thème, la deuxième vie, la deuxième donne, c'est un thème effectivement qui est assez courant dans mes films.
Comment ça à l'arrêt alors que vous avez un film qui sort en salle?
Non, je veux dire à l'arrêt parce que comment le film, pour moi, il est terminé. Donc la question qui se pose pour moi, c'est quel tiroir s'est ouvert à mon insu dans lequel je vais aller chercher quelque chose. Mais il ne s'est pas ouvert encore.
Quel sera le prochain et où sera le cap que vous suivrez pour la suite
de la route? Voilà, c'est ça. Telles sont mes questions.
Nouveau jour, nouvelle vie.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Bed of comfort in uncertain times.
And I'll be good.
S-I-S-T-E-R-S. Sisters. Like sisters.
We are the Sisters Brothers. You and me.
You not scared to reproduce yourself?
River running.
Friends are on their way here to torture me.
Did you realize that our father was struck raving mad and we got his foul blood in our veins?
To torture me.
That blood was probably good at what we do.
Jacques a dit « Ceci n'est pas un western, c'est un western apaisé, un western paradoxal, un western d'avant Freud, pré-analytique. » Et alors là, les bras m'en tombent, parce que moi je le trouve 100% freudien, votre western.
Non, d'avant Freud, c'est juste chronologique, c'est comme si les gens n'avaient pas eu affaire à la littérature freudienne. Et d'ailleurs, est-ce que des ploucs comme mes héros n'auraient-ils jamais lu un livre? Je ne sais pas. Mais c'était dans ce sens-là, et c'est... voilà. Mais c'est pas, quand je dis oui, c'était pas un western, c'est vous savez comment je crois que le public américain, l'enfant américain sait ce que c'est qu'un western. Nous on joue aux cow-boys et aux indiens, mais le western c'est fondateur, c'est le mythe, c'est le récit fondateur et qui est assez étrangement contemporain de la naissance du cinéma. Et c'est et que en plus moi, je n'ai pas de goût particulier pour le western. Je n'ai pas de connaissance exhaustive du western. Très vite, ça m'a ennuyé, les westerns. Surtout, moi, ça m'a ennuyé à partir du moment où j'ai compris que John Wayne parlait pas français, en fait. C'était le choc. Et là, ça m'a moins intéressé. Et je pense que c'est pour moi un film d'époque. Et plus spécifiquement, c'est un conte. Je crois que le livre de Patrick DeWitt indiquait ça, indiquait le conte.
Il faut avoir cette mythologie dans le sang, quelque part,
pour le faire, oui, bien sûr, je pense.
C'est pour ça que ce n'est pas un western.
Il faut avoir le sens de l'espace, le sens de certains sens du dynamisme, un certain sens des représentations héroïques. Et eux, c'est fondateur, c'est culturellement fondateur. Nous, je crois qu'on est plus issus de Balzac, Zola, Hugo que du western.
Du coup, vous en avez fait un film personnel, un film qui vous ramène à des sujets qui vous sont chers, celui de la filiation et celui de la fratrie, ici, plus marqué que dans d'autres. Freud dit qu'il faut tuer le père pour exister. Et tout au long de leur route, ces deux-là, Ellie et Charlie, ils vont s'y employer. Je vous propose d'écouter un extrait.
Je me suis demandé sur la famille. Vous vous souvenez comment Paul était avec maman?
Oui, Charlie, je me souviens.
Makes you think. You're not scared to reproduce yourself? You do realize that our father was stark raving mad and we got his foul blood in our veins?
Our father drank, Charlie.
Touché. That was his gift to us. That blood. That's why we're good at what we do.
En version originale. Tu as peur de te reproduire. T'es conscient que notre père était fou allié et que toi et moi, on a son sang pourri dans les veines. Ces deux-là ont quelque chose à régler avec leur fantôme. Et ce fantôme, c'est celui du père qui revient en cauchemar, avec la paternité aussi, qu'ils ont peut-être envie un jour de pouvoir assumer. Ils vont donc devoir tuer le père, un père qui est déjà mort.
Bah, ils tueront l'autre père, le symbolique. Celui qui est revenu pour se faire tuer, en fait. Vraiment. Mais vous savez, on parlait de manière un peu générique du western tout à l'heure. Dans le western, il y a ça. C'est l'essence du western. Comment régler ce problème de la violence des pères fondateurs, de ceux qui ont massacré les Indiens, les bisons, qui ont foutu la terre en l'air, tout ça. C'est comment, à quel moment on va laisser les armes à l'entrée du village, à quel moment. Un bonhomme va se mettre une étoile sur la poitrine. C'est le problème. Cette violence, c'est le problème du western. Et on voit bien d'ailleurs comment il va se traiter après ultérieurement. Moi, j'aime pas les westerns classiques, mais comment dans les années 60, des films comme Liberty Valance, tout ça, vont traiter très très littéralement cette question de l'arrivée de la démocratie.
Qu'est-ce que vous aimez pas dans les westerns classiques?
Bon, je sais pas. J'ai trouvé une explication. En fait, moi, j'étais beaucoup éduqué par le cinéma. Quand je dis éduqué, c'est que le cinéma m'a appris plein de choses, m'a montré des endroits que j'ignorais, des rapports sociaux que j'ignorais, m'a montré ce que c'était que les femmes, le corps des femmes, comment séduire les femmes, comment leur parler. Jean-Louis Trintignant, Mastroianni, Nicholson, ils se sont vraiment, vraiment employés. En résumé, je peux pas dire que John Wayne, une fois dans ma vie, m'a appris à parler à une fille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour moi, voilà. C'est un peu Cro-Magnon.
Il y a une double dimension dans ce film, personnel et collectif. La dimension personnelle, d'abord, Jacques Audiard, derrière les deux grands gaillards qui, au départ, flinguent tout le monde à bout portant. Vous avez gardé très présent, très visible, leur part d'enfance, une forme d'innocence, une tendresse. Et ce sont aussi deux héros qui questionnent leur propre virilité. Dans le western traditionnel que vous évoquiez, la virilité, c'est une espèce d'attribut inné qui ne se questionne pas, qui en impose et qui s'impose tout de suite. Ici encore, vous revendiquez, à travers ces personnages, un droit à l'ambiguïté.
Oh, bien sûr, oui. Et puis c'est quand même très intéressant de voir des espèces de... Oui, c'est ça, des je peux dire des brutes, mais... Oui, c'est leur virilité, mais c'est aussi découvrir la brosse à dents, l'hygiène dentaire. Vous voyez ce que je sais pas. C'est un ensemble. Mais il y en a un qui va vers la modernité, vers le monde moderne, et l'autre qui ne veut pas. Voilà, c'est ça. Donc, passe le questionnement de la virilité, de leur pouvoir, en fait. C'est leur pouvoir.
Et avec tout cela, il y a aussi cet ordre fraternel et familial qui enferme, parce que il n'a pas su protéger son frère, enfant, contre un père violent. Ellie, qui est l'aîné, a perdu en quelque sorte son droit d'aînesse. Il lui faut à la fois corriger cet épisode et reprendre sa place, et en même temps s'en libérer, parce que lui, cette relation, ce duo fraternel, ça le bride un peu quand même.
Ça le bride profondément, parce que je crois qu'il doit y avoir le en trouvant cette chose du droit d'aînesse, d'une espèce de... Allez, d'une couronne à reconquérir, ça interroge vraiment le devenir, j'allais dire presque érotique du personnage d'Eli. C'est qu'Eli est présenté comment le Joaquin Phoenix dans le film de Charlie et tout ce qu'il y a de diabolique et de séduisant, quoi. C'est une espèce de séduction sur pattes, alors que l'autre c'est le débonnaire grossier, un peu mal terminé. Alors, j'aimais bien cette idée qu'en reconquérant cette couronne de l'aînesse, il gagne en même temps en séduction et en héroïsme, en figure héroïque. Voilà.
Ça veut dire qu'il faut parfois tuer le père, mais il faut
mais
aussi parfois...
toujours, vous le savez bien. Et s'il y a une mère qui traîne, on la flingue aussi.
Aussi au passage. Il faut aussi parfois régler cette question de la fratrie. C'est intéressant parce que dans le film, l'acteur principal, c'est quand même Joaquin Phoenix, un des deux du duo, frère de River Phoenix, qui a été iconisé, acteur brillant, révélé et mort à 23 ans, donc très très jeune. Et ce film, vous le dédicacez, vous, à votre frère?
Oui, tout à fait. C'est une chose, alors, c'est très étrange, hein, où se situent les aveuglements. J'avais totalement oublié cette histoire de River et de Joaquin. Et c'est John C. sur le tournage qui m'a mis le nez dessus. Et c'est vrai. Et que moi, j'ai mis, en fait, assez longtemps à découvrir que j'ai eu un frère, je l'ai perdu quand j'étais jeune, que c'était mon frère aîné, que quand vous perdez votre frère aîné, deux choses vous arrivent simultanément, c'est que vous devenez le fils unique, quand on est deux, vous devenez fils, et vous héritez de la couronne de l'aînesse, puisque vous êtes le fils unique, et vous voyez tout le désagrément, toute la lourdeur de cette couronne, c'est une chose que ce projet vient de loin. C'est John C. Reilly, un acteur américain, qui me propose ce sujet. Je le prépare, je le fais pendant des années, et je réalise ça il y a 3 mois. C'est quand même, ou 4 mois, c'est quand même très singulier. Allô Freud, ouais. C'est là que normalement vous appelez, vous appeliez Sigmund.
J'ose pas trop.
J'ai son
plus.
Numéro si vous voulez.
Et il dirait quoi?
C'est Vienne 14-14.
Il vous a dit quoi?
Il m'a rien dit, Freud. Non, il m'a rien dit, si ce n'est que, un peu comme ça, en pirouettant, on peut dire oui, l'inconscient est con, mais c'est moi qui suis con.
John C. Reilly, c'est à la fois le producteur du film, c'est aussi l'un des deux frères à qui vous offrez un rôle absolument magistral. On l'a vu dans le registre de la comédie, genre Frangin malgré eux, mais on l'a aussi vu dans des films de Scorsese.
Et dans les films le film de Peter Anderson dans Magnolia, je ne sais pas si vous vous souvenez.
C'est celui-là qui vous a le plus marqué.
L'homme, le policier mélancolique, oui, il est merveilleux.
Là, il vous apporte le livre et il vous demande, avec sa femme, son épouse, d'en faire un film.
Enfin, c'est Alison qui pense à moi. Rendons à Alison ce qui appartient à Alison.
Elle a vu tous vos films.
Oui, je l'aime bien.
Ouais. Il y a 4 acteurs quand même importants dans ce film. Il y a John C. Reilly, qui est donc l'un des deux frères. Il y a Joaquin Phoenix, qui est l'autre frère, plus fragile, plus violent, plus soupolé, prix d'interprétation à Cannes avec le film de Lynn Ramsey, Beautiful Day. Il était aussi dans Her. Et il y a, pardon si j'écorche un peu les...
Je vous dirai. Hein,
Riz Ahmed, vu dans Rogue One, et Jake Gyllenhaal, vu dans Brokeback Mountain. Voilà, 4 acteurs, et du coup, 2 duos qui se font face un peu dans le film. Le duo des deux frères va s'affirmer, se consolider, se métamorphoser, moins face à l'adversité que dans l'altérité, en miroir avec le duo John et Herman. C'est un peu les deux intellos de l'histoire, par le raisonnement d'un côté et par l'intuition de l'autre. On a l'impression que les 4 vont partager, au final, un même but, ils vont poursuivre la même quête, mais pas par le même chemin.
Oui, c'est ça, et comment avec des personnalités plus difficiles à acquérir, comme celle du personnage de Charlie, qui est quand même très très instable. Mais parfois, je me suis dit que, enfin, c'est un petit peu bête, mais je me dis en fait, ces 4 personnages. Parfois, je me dis c'est 4 versants ou 4 moments de l'évolution d'un personnage, et en fait, comment les deux personnages interprétés par Riz Ahmed et par Jake Gyllenhaal existaient très peu dans le roman. Et je trouve, c'est le point le plus positif de l'adaptation, c'est qu'on les a fait apparaître et de manière telle d'ailleurs qu'ils étaient presque à égalité avec les autres. Et c'est eux qui vont transformer. On va plus parler de l'or, on va parler d'autre chose, on va parler d'une utopie possible, d'un phalanstère possible, et que ça, voilà, tout à coup, ils avaient un horizon.
Et là, on est entré dans la dimension utopique collective du film, l'espoir, lui, comme un brin de paille dans les sables, écrivait Verlaine.
Ah, Vador.
On y est.
Oh, c'est, ça me touche.
Vous voulez nous la réciter?
Je pourrais, je pense.
Ah, c'est vrai?
Bien,
allez-y.
Bien sûr. Non.
La violence chez vous, elle est jamais aveugle, Jacques Audiard. Il faut qu'elle s'ouvre sur quelque chose, qu'elle interroge aussi notre vision du monde. Ici, donc, c'est l'utopie, celle du phalanstère que vous venez d'évoquer, imaginée par les deux chercheurs d'or, une communauté où les hommes vivraient en harmonie, loin de la violence des prospecteurs. Extrait des frères Sisters sur cette société nouvelle qu'ils entendent créer.
For me, the goal is just a stepping stone. John, I'm serious. To found a new society, one that will consecrate itself not to profit or gold, but its spiritual development, its own subsistence, nothing more, the education of its children.
And where do you intend to create this society?
Dallas. Northern Texas. There are already many people waiting there. More on the way from Europe.
Pour moi, l'or n'est rien qu'un outil, dit-il.
Ouais, c'est ça.
J'essaie de traduire. Pour créer une société nouvelle, une société qui ne consacrera non pas au profit ni à l'or, mais à son développement spirituel, à sa subsistance, à l'éducation de nos enfants. Voilà ce que dit... c'est John, hein, c'est ça dans le, à ce moment-là.
Ça, c'est... Non, ça, c'est...
C'est Worm. Ça y est, je mélange.
C'est Riz Ahmed.
D'accord. Bon, sur cette société nouvelle que eux entendent créer, moi, je me demandais à quoi ressemblerait votre société idéale à vous.
Idéale, mon Dieu. Je sais pas. Non, je sèche.
On est un peu dedans, là, aujourd'hui.
La société nouvelle, à réinventer. Bah oui, bien sûr, mais une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai dit, pas grand-chose. Non, comment le problème, c'était la formulation d'une utopie à une époque, bon, puisqu'elle est historiquement situable entre Saint-Simon et Fourier. Et que c'est vrai qu'elle a migré, et que cette utopie est sévèrement, échoue sévèrement. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'il en reste? Et là aussi, c'est, dans ces cas-là, si je voyais un rapport aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il en reste de ce truc-là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et on voit bien que c'est terrible, quoi. Absolument pathétique.
Parce qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, à la présidence, il citait souvent Saint-Simon et ce philosophe du 19e que vous évoquez aussi à travers ce film, Frères Sisters. On s'est pas mal demandé si le macronisme était éventuellement un nouveau saint-simonisme. Ce nouveau monde d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il vous semble tendre vers une société idéale?
Mais pas du tout, parce que comment j'aime bien, là on débat, on passe sur un autre registre. Mais c'est, de toute façon, on a bien vu, moi je connaissais pas Nicolas Hulot plus que ça, je suis très, très sensible au fait que tout à coup, le rationnel s'efface et juste l'émotion d'une inquiétude va apparaître à plein, et que cet homme-là nous a donné ça. Voilà, ça a dû lui coûter énormément, j'imagine. Et que c'est c'est tout simple. C'est, est-ce qu'il y a juste, mais c'est tellement j'enfonce des portes ouvertes considérables là, vous savez. C'est est-ce que l'écologie peut s'accommoder de la financiarisation du monde? Ben non. Ben non, pas du tout. C'est pas, voilà.
Et donc cette société idéale, telle que vous pouvez peut-être l'imaginer, ben, ce serait une société où...
Ben, moi, j'imagine pas. Écoutez, j'ai pas cette prétention-là. Je suis pas sociologue, je suis pas politicien, je suis pas philosophe, je suis rien du tout. Je suis pas climatologue.
Mais vous n'êtes pas utopiste?
Non, je suis pas utopiste. Je réalise des films. En revanche, je trouve que c'est intéressant dans des films et puis d'ailleurs, les films, on les fait pas comme ça, on les fait par imprégnation. C'est qu'on est, si on produit des images, c'est que on n'est pas des démiurges absolus. Nous sommes le produit d'une infusion. Donc voilà. Et que les films, même s'ils sont pris dans le système incroyablement commercial, industriel, oui, ça sort le mercredi, etc., etc., et ben, parfois, on trouve des images, des représentations symboliques de certaines choses. Et qu'amener finalement, voilà, après tout, je me dis, amener le western, un genre comme assez particulier, dans une direction de cet ordre-là, ben c'est pas mal, moi, je trouve, c'est bien, c'est cohérent.
Vous évoquiez les pères fondateurs du western aussi et des États-Unis. Aujourd'hui, on n'y tue plus les Indiens ou son prochain pour une pépite d'or, mais la violence aux États-Unis et pas que, elle reste quand même très présente,
c'est effarant.
Sous une forme plus moderne. Hein.
C'est bien sûr effarant. Alors là, c'est presque l'impossibilité de tirer les leçons de l'histoire. Bon, là, c'est quand même, c'est un peu confondant, mais. Mais je crois que, bon, c'est idiot, puis je sais pas. C'est vrai qu'on vit un moment, Trump, c'est une aberration historique. La droitisation de l'Europe est une aberration historique. Je sais pas. Je suis livré à ma propre inquiétude.
Far, far, west, Jacques Audiard.
Far west.
Avec nous aujourd'hui jusqu'à midi et demi, les midi 22 sur France Culture. Frères, sisters, c'est aussi l'occasion pour vous de retrouver un compositeur qui vous est cher, Alexandre Desplat. Un livre que vous avez adapté, une idée qui ne vient pas de vous, mais la forme de ce film, faux western, vrai conte, oui, Jacques Audiard, un film de genre non conforme. Quel est le premier stéréotype, vous n'avez pas répondu à la question, que vous avez vraiment eu envie de retirer, de repousser de ce film?
Ben, je pense que je ne voudrais pas insister lourdement, mais c'est le western, je crois. C'est...
Tout court.
Ben, tout court. Le western, d'abord, ça a une histoire et c'est multiple. Mais si voilà, c'est si je pars du, si j'élimine les westerns des pères fondateurs, je me retrouve assez rapidement vers les années 70, donc dans des westerns qui sont mes contemporains, où là. Là, c'est merveilleux. Il y a Little Big Man, qui est un chef-d'œuvre. Il y a Missouri Breaks, un très grand film. Il y a John McCabe. Il y a Jeremiah Johnson, le premier western écologique. C'est vraiment formidable.
Et vous dites que vous avez aussi.
Je cite Little Big Man. Ce Little Big Man, pour moi, est une référence de conte. En fait, le film qui est à l'origine formelle de Sisters, c'est La Nuit du Chasseur de Charlton, qui n'est pas un western du tout, mais qui est un vrai conte. Et quand on voit Little Big Man, je trouve que c'est à la croisée de ces chemins-là.
Sur cette idée de la démystification.
Démystifier, je sais pas comment.
Cet ouest américain aussi.
Je me lève pas le matin en me disant, tiens, je vais aujourd'hui démystifier à fond.
C'est un bon projet pour toi, non?
C'est un projet. Là, si on démystifiait un peu. Voilà, non, je me dis, tiens, voilà, où est-ce qu'on va vraiment pouvoir se mettre pour raconter cette histoire? Et le livre de Patrick DeWitt, c'est vraiment une histoire de. C'est un roman de formation.
Jacques Audiard, le démystificateur. Le geste le plus transgressif dans ce film, c'est le vôtre quand vous avez quand même choisi de ne pas tourner aux États-Unis. Ce film qui raconte la traque d'un chercheur d'or par les frères Sisters, de l'Oregon à la Californie. Ben non, pas du tout. Les extérieurs ont été tournés en Espagne et en France. C'est ça, dans le Médoc?
Dans le Médoc, non, à Lacanau-Océan. La plage, le Pacifique, c'est Lacanau-Océan, je vous signale. On était au-dessus de la plage des nudistes qu'on a effacé, hein, la palette graphique. Sinon, on aurait eu les nudistes allemands en plus de l'océan.
Et moi, je me suis fait complètement avoir. Vous savez, en voyant le film, j'étais sûre qu'on était aux États-Unis. Je me suis dit, voilà, il a fait des très belles images, mais dans un tel espace.
Parce qu'on connaît pas très très bien les États-Unis, en fait, c'est tout ça.
Ou la France,
exactement. Ou l'Espagne, ou le nord de l'Espagne.
Donc vous avez inventé vos propres paysages pour renouveler aussi nos imaginaires. C'était ça un peu l'idée, dans cette délocalisation?
L'idée, c'est très franchement, c'est d'échapper aux contraintes. C'est échapper aux contraintes d'une structure américaine. C'est échapper après aux contraintes esthétiques, aux contraintes, le grand ciel, ces trucs-là qu'on a vu quand même beaucoup, beaucoup de fois. Dans ces cas-là, il vaut mieux fabriquer son outil de cinéma. Ça nous est apparu très vite.
Comment vous avez tourné la scène de l'araignée?
C'est de la palette graphique. Comme dit John Seale, nous n'avons pas fait de mal à l'araignée. Aucune araignée n'a été tuée sur ce tournage.
Très bien. On n'avale pas des araignées en vrai sur vos tournages. Bon, parce que ça, on en a encore un peu la chair de poule. À propos de contraintes techniques ou de questions autour de cela, aujourd'hui, c'est un film Netflix, Roma d'Alfonso Cuarón, qui a obtenu le Lion d'Or à la Mostra, où vous avez brillé avec un Lion d'Argent. Netflix, dans les festivals de cinéma, Jacques Audiard, on avait envie de vous entendre sur ce point-là, sur la question aussi de la chronologie des médias, plus largement aujourd'hui. Vous, ça vous pose problème?
La chronologie des médias, vous entendez quoi par chronologie des médias?
Juste d'abord sur Netflix et sa présence dans les festivals. Parce qu'à Cannes, porte close. Oui, Mostra, porte ouverte et victoire.
C'est curieux, je trouve ça. Je ne peux pas m'empêcher de trouver ça curieux. Je ne peux pas m'empêcher d'être extrêmement surpris, un peu choqué quand je vois les recensions du palmarès de Venise avec Netflix, ça a gagné. Netflix, Lion d'Or. Je trouve ça. C'est vrai que quelque chose, en deux ans, quelque chose s'est imposé à nous qui à mon sens, réduit considérablement le champ. Il y avait des choses que je percevais mal dans le... Si, je comprenais tout à fait l'attitude de Frémaux, mais je ne sais...
À Cannes.
Oui, l'attitude de Thierry Frémaux à Cannes, je la comprends encore. Mais ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que tout à coup, il y a un opportunisme, voilà, qui rend la chose possible. Et je ne peux absolument pas en juger des conséquences, je sais pas du tout.
Si Netflix vous propose de produire l'un de vos films, vous refusez?
Je serais tenté de dire ça dépend lequel.
Bah, c'est les journalistes de la rédaction
qui rentrent.
Mais
vous étiez où?
Parce qu'il est près de
midi. Vous avez vu de la lumière? C'était...
On résiste, on continue de résister, oui, résiste. En France, ou est-ce qu'il faut nous revoir peut-être aussi?
Non, c'est pas comme moi la proposition.
Notre manière de faire
la proposition, moi, enfin Netflix, je les avais vus pour Sister. C'est une proposition très très simple, c'est beaucoup d'argent, ils prennent le film. Après, comment
Pourquoi vous n'avez pas vendu votre âme au diable?
Non, je ne la vends pas au diable, mon film, vous pouvez le faire ailleurs. Cuarón, ce qu'il dit et ce que je crois, c'est il fait un film en noir et blanc sur son enfance mexicaine. C'est vrai que c'est peut-être peu porteur. Netflix lui offre la possibilité, il le fait. Mais au résultat, le Netflix Lion d'Or, c'est ça qui me gêne. C'est pas le Cuarón, l'artiste, il est incontestable, il est très très bien.
Et ça vous gêne parce que pas de passage en salle en France?
Ah ça, je sais que j'aurais moi beaucoup de mal quand j'ouvre le truc comme ça. Je sais plus où qui existe et comment. C'est vrai que c'est difficile. J'y arrive plus. Ce devenir-là m'intéresse peu en fait. Voilà.
Jacques Audiard, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
On raccroche le téléphone, on laisse Freud tranquille à sa place.
Oui, il a affaire cet après-midi.
Bon, et mercredi, on va en salle au cinéma voir Les Frères Sisters, votre nouveau film, qui sera donc dans toutes les salles à partir de mercredi, deux jours plus tard, je crois, aux États-Unis. Ça mérite d'être dit.